Hoffmann, le cœur de pierre. Tout voyageur qui, à une heure favorable de la journée, passe à la distance d'une demi-heure de chemin de la petite ville de G, du côté du Midi, est frappé de l'aspect imposant d'un château qui s'élève à droite de la grande route, avec ses murs peints et crénelés d'une manière bizarre, pareil à un géant qui vous regarde à travers le sombre feuillage des halliers. Ces halliers environnent un vaste parc qui s'étend au loin dans la vallée. Si le hasard te conduit jamais là, bien-aimé lecteur, ne crains pas le léger retard apporté à ton voyage, ni le modeste pourboire qu'il te faudra peut-être donner au jardinier. Mais descends bravement de voiture et fais-toi introduire dans le parc et dans la maison, sous prétexte d'avoir intimement connu le défunt propriétaire du château, le conseiller à la cour de G, Reutlinger. Tu peux d'ailleurs en agir ainsi sans scrupule, pourvu qu'il te plaise de lire jusqu'à la fin tout ce que je suis disposé à te raconter. Car j'espère qu'après cela, le conseiller Reutlinger sera tellement présent à tes yeux, avec toutes ses bizarreries et façons d'agir, que tu croiras l'avoir connu familièrement toi-même. Dès le premier abord, tu trouves le château décoré, dans un style lourd et antique, d'ornements grotesques et bigarrés. Tu critiques avec raison le mauvais goût de ces peintures sur pierre, la crudité et le contraste choquant des couleurs, mais après un examen plus attentif, il te semble qu'un esprit mystérieux et fantastique anime ces murailles peintes. Et c'est avec la sensation d'un frisson étrange que tu pénètres sous le porche spacieux. Les champs distincts des parois, revêtus d'un enduit imitant le marbre blanc, sont couverts d'arabesques coloriées, aux couleurs tranchantes, où l'on voit des fleurs, des fruits, des pierres, des figures d'hommes et d'animaux accouplés et entrelacés, de la manière la plus fantasque et dont on croit pouvoir soupçonner vaguement la signification mystérieuse. Dans le grand salon, qui occupe tout le rez-de-chaussée dans sa largeur, et dont le plafond en coupole s'élève plus haut que le deuxième étage, la plastique a reproduit en sculpture douée, dorée, tout ce que tu viens de voir indiqué dans les peintures du vestibule. Tu ne manqueras pas, à la première vue, de te récrier sur le goût corrompu du siècle de Louis XIV, de déclamer hautement contre un style aussi faux, aussi maniéré, aussi confus, aussi baroque. Mais pour peu que tu partages ma manière de voir, et si, comme je me plais toujours à le supposer, lecteur bénévole, tu es doué d'une active imagination, tu oublieras bientôt toute idée de blâme, quelque bien fondée qu'il soit d'ailleurs. Cet arbitraire sans fin, cette exagération, ne te paraîtront plus que de hardis caprices du génie de l'artiste, se jouant avec ses milliers de figures soumises à son libre arbitre, mais formulant pourtant dans leur ensemble, dans leur enchaînement complet, ce sentiment d'amère ironie qu'inspirent les déceptions de la vie terrestre aux âmes profondes qui souffrent de quelques blessures mortelles. Je t'engage, bien-aimé lecteur, à parcourir les petites chambres du deuxième étage, dont les fenêtres donnent sur le grand salon, qu'elles entourent comme d'une galerie. Leur décoration est très simple, mais de loin en loin, l'on rencontre des inscriptions allemandes, turques et arabes, qu'on s'étonne de voir ainsi réunies. Tu visiteras ensuite le jardin. Il est planté à l'ancienne mode française, avec de longues et larges avenues bordées de hautes murailles de charmilles, qui entourent de spacieux bosquets et ornés d'ifs, de statues et de fontaines. Je ne sais, bien-aimé lecteur, si tu ne ressens pas, comme moi, une impression sérieuse et solennelle à la vue d'un de ces vieux jardins à la française. Mais ne préfères-tu pas un pareil chef-d'œuvre de l'art au ridicule encombrement de mesquinerie qui constitue nos soi-disant jardins anglais, avec des petits ponts, des petits fleuves, des petits temples et des petites grottes? Au bout du jardin, tu entres dans un bois obscur de saules pleureurs, de bouleaux aux branches pendantes et de pins de Weymouth. Le jardinier te fait remarquer que ce petit bois, comme il est aisé de le voir du haut de la maison, a la forme régulière d'un cœur. Au milieu est un pavillon en marbre de Silésie de couleur foncée, bâti en forme de cœur. Tu entres, tu vois le sol revêtu de dalles de marbre blanc, et au milieu un cœur de grandeur naturelle. C'est une pierre d'un rouge foncé encastrée dans le marbre. Tu te penches et tu découvres ces mots gravés dans la pierre. Il repose. Dans ce pavillon, devant ce cœur de pierre d'un rouge foncé, qui alors ne portait pas encore cette inscription, se trouvait le jour de la nativité de la Vierge, c'est-à-dire le 8 septembre de l'année 180, un grand et vieux monsieur de belle prestance et une vieille dame, tous deux fort richement et élégamment vêtues à la mode du dernier siècle. « Mais, dit la vieille dame, comment, cher conseiller, vous est venue une idée aussi bizarre, ou pour mieux dire aussi lugubre, de faire bâtir ce pavillon pour servir de tombeau à votre cœur, qui doit reposer, dites-vous, sous cette pierre rouge ?»«
Ôtez-nous sur ce sujet, cher conseillère intime, répliqua le vieux monsieur. Appelez la fantaisie maladive du lame ulcéré, appelez-le comme vous voudrez, mais... Sachez que lorsqu'au milieu de cette riche propriété, dont un caprice dérisoire du destin m'a gratifié comme d'un jouet qu'on jette à l'enfant naïf pour lui faire oublier son plus cuisant chagrin, lorsqu'au milieu de cette riche propriété, la mélancolie la plus noire s'empare de moi, lorsque tous les maux que j'ai souffert reviennent de nouveau m'assaillir, sachez que je trouve alors dans cet asile la consolation et le repos. Les gouttes de mon sang ont ainsi rougi cette pierre, mais elle est restée froide comme glace, et quand elle sera en contact avec mon cœur, elle rafraîchira l'ardeur funeste qui le consume. » La vieille dame contempla du regard le plus triste le cœur de pierre, et comme elle se penchait un peu en avant, deux grosses larmes brillantes comme des perles tombèrent sur la pierre rouge. Le vieux monsieur tendit alors la main avec vivacité et saisit celle de la dame. Ses yeux étincelaient d'un feu juvénile, tel qu'apparaît aux lueurs magiques du crépuscule l'admirable perspective d'un riche paysage embelli de fleurs et de verdure. On vit se peindre dans ses regards brûlants toute une époque depuis longtemps passée, pleine d'amour et de bonheur. Julie. Julie, et vous aussi, vous avez pu blesser d'un coup mortel ce pauvre cœur. Ainsi s'écria le vieux monsieur d'une voix à moitié étouffée par la tristesse la plus douloureuse.
Mais ce n'est pas moi, répliqua la vieille dame avec beaucoup de douceur et de tendresse, ce n'est pas moi qu'il faut accuser, Maximilien. N'est-ce pas votre caractère intraitable et vindicatif? N'est-ce pas votre foi déraisonnable à des pressentiments chimériques et aux singulières visions d'une sombre fatalité qui vous a chassé d'auprès de moi et qui, à la fin, a dû me contraindre à donner la préférence à cet homme plus doux et plus flexible qui recherchait ma main en même temps que vous? Ah, Maximilien, vous deviez bien le sentir, combien vous étiez aimé. Mais votre incurable manie de vous tourmenter vous-même ne m'a-t-elle pas fait souffrir aussi jusqu'au dernier excès de l'angoisse et de l'épuisement? » Le vieux monsieur interrompit la dame en quittant sa main. « Bon, vous avez raison, madame la conseillère. Il faut que je reste seul. Aucun cœur humain ne doit s'attacher à moi. Tout ce que peuvent l'amitié la plus pure, l'amour le plus dévoué, vient se briser en effet. » Contre ce cœur de pierre. Combien vous êtes amer, repartit la dame, mais combien vous êtes injuste envers vous-même et envers les autres, Maximilien. Mais qui ne vous connaît pas comme le plus généreux bienfaiteur des malheureux, comme le plus stable, le plus ardent défenseur du bon droit et de l'équité. Mais quel mauvais génie a donc jeté dans votre âme cette horrible défiance qui vous fait soupçonner ruine et malheur dans une parole, dans un regard, même dans la plus futile circonstance, indépendante de toute volonté humaine?
Ne porte-je pas à tout ce qui m'approche l'affection la plus sincère, dit le vieux monsieur, d'une voix adoucie et la larme à l'œil. Mais ce sentiment d'amour déchire mon cœur au lieu de le satisfaire. Ah, poursuivit-il en élevant la voix, il a plu à l'impénétrable Providence de me donner doué d'une faculté qui, en me préservant de dangers mortels, me fait souffrir 1000 morts. Semblable au juif errant, je vois sur le front du rebelle Caïn, du méchant hypocrite, le signe de la réprobation éternelle. Je sais lire les secrets présages que le mystérieux esprit de l'univers, le hasard selon nous, sème en se jouant sur notre route comme autant de problèmes à résoudre. Une céleste et charmante vierge nous surveille constamment de ses clairs yeux d'Isis, mais c'est pour saisir violemment de ses griffes de sphinx et précipiter dans l'abîme l'infortuné qui ne devine pas ses énigmes. Toujours ces funestes rêveries, dit la vieille dame. Mais qu'est devenu cet aimable et charmant enfant, le fils de votre frère cadet, que vous avez recueilli il y a quelques années avec tant de bienveillance, et qui semblait ressentir pour vous tant d'amour et de reconnaissance?
Je l'ai chassé, répliqua le vieux monsieur d'une voix rude. C'était un scélérat, un serpent, que je réchauffais dans mon sein pour ma propre ruine.
Un scélérat? Un enfant de 6 ans?
Demanda la dame toute consternée.
Oh, vous connaissez l'histoire de mon frère Puiné, poursuivit le vieux monsieur. Vous savez qu'il abusa plusieurs fois de ma confiance d'une manière infâme, et qu'étouffant dans son cœur tout sentiment fraternel, il se faisait une arme contre moi de chaque bienfait que je lui rendais. Ce n'est pas ma faute de ses constants efforts, si je n'ai pas à déplorer la perte de mon honneur, de mon existence civile. Vous savez comment, réduit à la plus profonde misère, il vint à moi il y a plusieurs années. Comment il feignit hypocritement un retour à des sentiments affectueux pour moi et une réforme dans sa manière de vivre désordonnée. Quels soins et quels secours je lui prodiguais. Et comment ensuite il profita de son séjour dans ma maison pour s'emparer frauduleusement de certains documents. Bon, mais là, c'est là-dessus. Alors son jeune fils me plut, et quand l'infâme fut forcé de fuir, après avoir vu déjouer les intrigues qui devaient m'envelopper dans un désastreux procès criminel, je gardais l'enfant chez moi. Et un avertissement du destin m'a délivré dernièrement de ce petit monstre.
Et cet avertissement du destin, c'était sans doute un de vos mauvais rêves, dit la vieille dame. Mais le vieux monsieur poursuivit.
Oh, écoutez, Julie, et jugez vous-même. Vous savez que l'infernale méchanceté de mon frère me porta le plus rude coup que j'ai jamais souffert.
Pas moi pourtant,
mais silence là-dessus. Ce fut peut-être en effet l'irritation maladive dont mon âme fut alors affectée, qui m'inspira l'idée de faire construire dans ce petit bois une sépulture pour mon cœur. Bref, cela s'exécuta. Le petit bois était dessiné dans la forme d'un cœur. Le pavillon était bâti et les ouvriers s'occupaient de ce dallage en marbre. Et un jour, en venant visiter leur ouvrage, j'aperçois à quelque distance l'enfant, nommé Max, ainsi que moi, qui faisait rouler par terre quelque chose avec 1000 bonds joyeux et de grands éclats de rire. Un sombre pressentiment traversa mon âme. Je m'avance vers l'enfant, et je demeure consterné en voyant que c'était cette pierre rouge taillée en forme de cœur, qui était dans le pavillon, prête à être mise en place, qu'il avait portée dehors et avec laquelle il jouait ainsi. « Mais misérable, m'écriai-je, tu joues avec mon cœur comme a fait ton père !» Et comme il s'approchait de moi en pleurant, je le repoussai avec horreur. Mon intendant reçut les ordres nécessaires pour le conduire ailleurs. Et depuis, je ne l'ai jamais revu. « Homme affreux !» s'écria la vieille dame. Mais le vieux monsieur, s'inclinant poliment, lui dit « Les suprêmes arrêts du destin ne s'accordent pas avec les molles délicatesses féminines. » Et lui offrant son bras, il la conduisit hors du pavillon et à travers le petit bois dans le jardin. Le vieux monsieur était le conseiller au lit Reutlinger et la vieille dame, la conseillère intime Föhrd. Le jardin offrait ce jour-là le spectacle le plus singulièrement remarquable que l'on pût voir. Une nombreuse société de vieux messieurs, venus des petites villes voisines, conseillers intimes, conseillers auliques et autres, avec leurs familles, s'y trouvèrent assemblés. Tous, jusqu'aux jeunes gens et aux demoiselles, étaient rigoureusement costumés à la mode de l'an... Née 1760, avec de grandes perruques, des habits galonnés, des frisures pyramidales, des jupes à paniers, et ainsi de suite. Ce qui présentait un aspect d'autant plus extraordinaire que tous ces anciens costumes s'alliaient merveilleusement avec le caractère gothique du jardin. Chacun se croyait reporté, comme par l'effet d'un enchantement, à une époque passée depuis longtemps. Cette mascarade était le résultat d'une idée extravagante de Reutlinger. Il avait l'habitude de célébrer tous les 3 ans, dans sa propriété, le jour de la Nativité de la Vierge, la fête du vieux temps. Et il y invitait tous ceux qui voulaient y assister, mais sous la condition expresse que chaque convive adopterait pour ce jour-là le costume exact de l'année 1760. Les jeunes gens, pour qui il eût été embarrassant de se procurer de semblables habits, pouvaient librement disposer de la garde-robe bien fournie du conseiller. Il était évident que celui-ci n'avait autre but que de mener joyeuse vie durant les 3 jours consacrés à cette fête, en réminiscence de l'heureux temps de sa jeunesse. Ernest et Willibald se rencontrèrent dans une allée écartée. Tous deux s'examinèrent quelques moments en silence et partirent ensuite d'un fol éclat de rire. « As-tu malheur ? » s'écria Willibald, « du chevalier désespéré, cherchant à retrouver sa route dans le labyrinthe d'amour. » Et Ernest répliqua, ben, il me semble voir en toi un des héros de l'Astrée. Mais vraiment, reprit Willibald, l'idée du vieux conseiller n'est pas si mauvaise. Il veut absolument se mystifier lui-même et ressusciter comme par magie une époque où il vivait réellement, bien qu'encore à présent, vieillard alerte et vigoureux, il jouisse de la santé la plus robuste et d'une étonnante vivacité d'esprit, au point qu'il surpasse en énergie et par sa fraîcheur d'imagination plus d'un jeune homme énervé avant l'âge. Du reste, il n'a pas à craindre que quelqu'un de ses convives démente ici son costume par ses gestes ou son langage, car de pareils vêtements rendent assurément la chose tout à fait impossible. Vois un peu comme nos jeunes dames se dandinent avec grâce et coquetterie dans leurs jupes à corps et à paniers, et comme elle joue à ravir de l'éventail. En vérité, moi-même, sous la perruque qui recouvre ma tête, je me sens inspiré par un esprit tout particulier de courtoisie antique, et surtout à l'aspect de cette délicieuse enfant, la plus jeune fille du conseiller intime Föhrd, la charmante Julie. Oh, je ne sais ce qui me retient de m'approcher d'elle, de me mettre humblement un genou en terre et de lui dire catégoriquement « Charmante Julie, quand donc, en payant de retour l'amour qui me consume depuis si longtemps,
Vous résoudrez-vous à rendre à mon âme le repos dont elle est altérée?
Il est impossible que cette merveilleuse beauté corporelle ne serve de temple qu'à une froide idole de pierre. La pluie creuse le marbre à la longue, un sang impur amollit le diamant. Mais ton cœur ne peut se comparer qu'à l'enclume qui s'endurcit de plus en plus sous les coups répétés des marteaux. Plus mon cœur bat, plus tu deviens insensible. Laisse donc ton regard si touchant se reposer sur moi. Vois déjà comme mon cœur fond au feu de ses rayons. Vois mon âme qui se consume dans l'attente de la rosée rafraîchissante qui penchera ta faveur. Ah, veux-tu me désespérer par ton silence, âme insensible? Mais les rochers inanimés répondent par la voix de leurs échos à la voix qui les interroge. Et tu refuses de m'honorer d'une réponse, moi, qu'une douleur inconsolable. Je t'en prie, dit Ernest, en interrompant son ami, qui avait débité tout cela avec les simagrées les plus bouffonnes. Trêve de comédie. Te voilà encore dans tes accès d'extravagance, et tu ne t'aperçois pas que Julie, qui s'approchait de nous d'abord amicalement, vient de s'enfuir tout à coup tout effarouchée. Sur l'apparence, elle croit sans doute, comme ferait tout autre à sa place, que tu te railles d'elle sans pitié. Et c'est ainsi que tu ajoutes à ta réputation d'esprit satirique endiablé. Et c'est ainsi que tu me compromets dans cette société où je suis de nouveau venu. Car déjà, tout le monde chuchote en me lançant un coup d'œil équivoque et avec un sourire aigre-doux. « Oh, c'est l'ami de Willibald !»« Laisse-le dire, » répondit Willibald. « N'ignore pas que bien des gens, et surtout les jeunes filles de 16 à 17 ans, riches de grandes espérances, m'évitent soigneusement. Mais je connais le but où tous les chemins aboutissent. Et je sais aussi que lorsqu'ils y rencontreront, ou plutôt qu'ils n'y trouveront, établis comme dans mon propre domaine, ils seront les premiers à me tendre la main aussi cordialement que possible. « Ah, tu veux parler, dit Ernest, de la réconciliation finale promise dans la vie éternelle quand nous aurons secoué le joug des idées et des besoins terrestres. Oh, je t'en prie, l'interrompit Willibald, parlons raison et n'avons pas encore soulevé ces vieilles questions rebattues précisément dans le moment le moins convenable. En effet, que pouvons-nous faire de mieux à cette heure que de nous abandonner à la joyeuse impression des scènes merveilleuses dues à la bizarre imagination de Reutlinger et dans lesquelles nous voici comme encadrés? Vois-tu là-bas cet arbre dont le vent balance ça et là les énormes fleurs blanches? Ça ne peut pas être le cactus grandiflorus, car il ne fleurit qu'à minuit. Et je ne me sens pas non plus l'arôme pénétrant qu'il devrait exhaler. Dieu sait quel arbre miraculeux le conseiller a encore transplanté dans son tusculum. Les amis se dirigèrent de ce côté, et ils ne furent pas médiocrement surpris à la vue d'un massif de sureaux dont les fleurs n'étaient autre chose que des perruques poudrées à blanc suspendues à ses branches et qui se balançaient de haut en bas avec leurs bourses ou leurs petites queues pendantes, jouets capricieux du vent du sud. De bruyants éclats de rire derrière les arbres trahirent la présence de leurs propriétaires. Plusieurs vieux messieurs, tout disposés alertes, s'étaient réunis sur une verte pelouse entourée de buissons fleuris. Après avoir ôté leurs habits et accroché aux branches les incommodes perruques, ils jouaient ensemble au ballon. Mais personne ne surpassait en adresse le conseiller Reutlinger, qui lançait à chaque coup le ballon à une hauteur prodigieuse et d'une façon si habile qu'il retombait juste au pied de son partenaire. En ce moment, on entendit une musique discordante de fifres aigus accompagnée de tambours.
Les joueurs s'interrompirent aussitôt et reprirent à la hâte leurs habits et leurs perruques. « Qu'est-ce donc encore que cela ?» dit Ernest. « Paris, répartit Willibald, que c'est l'ambassadeur turc qui fait son entrée. » « L'ambassadeur turc ?» demanda Ernest, tout stupéfait. « Oui, reprit Willibald, c'est ainsi que j'appelle le baron Dexter, qui réside à G, mais que tu ne connais encore que trop imparfaitement pour apprécier en lui l'un des originaux les plus surprenants qu'il y ait au monde. Il a été autrefois ambassadeur de notre cour à Constantinople, et il aime encore à se mirer, pour ainsi dire, au reflet de cette époque fortunée et qui signala le printemps de sa vie. Ses descriptions du palais qu'il occupait à Péra rappellent les magnifiques palais de diamants des mille et une nuits. Et il se vante de posséder, comme le sage roi Salomon, un secret empire sur les puissances occultes de la nature. En effet, ce baron Dexter, malgré ses fanfaronnades et son charlatanisme, a je ne sais quoi de mystique et de surnaturel qui souvent me maîtrise malgré moi, surtout en raison du plaisant contraste que présente son extérieur passablement grotesque. De là, enfin, c'est-à-dire de sa manie caractéristique pour les sciences mystérieuses, provient sa liaison intime avec Reutlinger, qui lui-même a donné de corps et âme à ce genre de superstition. Tous deux sont partisans décidés de Mesmer, et ce sont du reste d'étranges visionnaires, chacun dans leur genre. Pendant cette conversation, les deux amis étaient arrivés jusqu'à la grande grille du parc par laquelle l'ambassadeur turc entrait effectivement. C'était un petit homme rondelet avec un joli caftan turc et coiffé d'un épais turban formé de châles de diverses couleurs. Mais il n'avait pu déroger à ses habitudes jusqu'à se séparer de sa perruque à marteau et à bourse plate, et il avait aussi gardé, par nécessité, à cause de sa goutte, ses bottes de castor fourré, ce qui altérait assez grièvement la couleur orientale de son costume. Les gens de sa suite, ceux-là même qui faisaient cet abominable charivari, et en qui Willibald reconnut, malgré leur travestissement, les laquais et le cuisinier d'Esther, étaient noircis de suie pour figurer des esclaves africains, et ils portaient des bonnets pointus de papier peint, ressemblant assez à des San Benito, ce qui produisait l'effet le plus plaisant. L'ambassadeur turc donnait le bras à un vieil officier, que, d'après son costume, on pouvait croire nouvellement ressuscité sur quelques champs de bataille de la guerre de 7 ans. C'était le général de Rixendorf, commandant de la ville de G, qui, pour complaire aux conseillers, avait endossé ce jour-là, ainsi que ses officiers, cet ancien uniforme. « Salam alek !» dit Reutlingen en donnant l'accolade au baron Exter, qui ôta son turban et le remit ensuite sur sa perruque, après avoir essuyé la sueur de son front avec un foulard des Indes orientales. En ce moment, on vit s'agiter entre les branches d'un grand cerisier quelque chose d'étincelant qu'Ernest contemplait depuis longtemps sans pouvoir en discerner clairement la nature. C'était tout bonnement le conseiller intime de commerce, Archer, vêtu d'un habit de cérémonie en brocart d'or, avec des culottes semblables et une veste de drap d'argent semée de fleurs bleues. Il écarta les branches du cerisier et, avec assez de prestesse pour son âge, descendit par une échelle appuyée contre l'arbre en chantant, ou plutôt en sifflant, d'une voix glapissante « Ah, que vedo, oh Dio, que sento !» et il courut se jeter dans les bras de l'ambassadeur turc. Le conseiller de commerce avait passé sa jeunesse en Italie. Il était amateur passionné de musique, et il avait encore la prétention grâce à un fossé aigu usé depuis longtemps, de chanter à l'égal de Farinelli.
Oh, j'ai vu, dit Willibald à Ernest, monsieur Archer se bourrer les poches de cerises, dont il compte faire hommage aux dames avec l'accompagnement de quelques nouveaux madrigals sentimentalement récités. Mais comme il porte à l'instant du grand Frédéric, à même sa poche son tabac d'Espagne sans tabatière, il ne recueillera de sa galanterie que des regards courroucés et des refus dédaigneux.
Partout, l'ambassadeur turc, ainsi que le héros de la guerre de 7 ans, avait été accueilli avec des transports de satisfaction. Juliette Feuerd s'approcha du guerrier, et après s'être inclinée devant lui avec une humilité filiale, elle voulut lui baiser la main. Mais l'ambassadeur s'élança vivement entre eux en s'écriant « Oh folie, extravagance !» Puis il embrassa la jeune fille avec effusion. Et à cette occasion, marcha très rudement, par mégarde, sur les pieds du conseiller Archer, qui ne fit cependant entendre qu'un léger miaulement de douleur. Cependant, Exter entraîna avec lui Julie à l'écart. On le vit alors s'escrimer, gesticuler avec feu, ôter son turban, le remettre, l'ôter encore, et ainsi de suite. Bien, que se passe-t-il donc entre le vieux baron et la jeune demoiselle? Demanda Ernest.
En effet, répliqua Willibald, il paraît que c'est une affaire importante, car, ou bien qu'Exter soit le parrain de la jeune fille et qu'il l'aime à la folie, il n'a pourtant pas l'habitude de se sauver si vite avec elle, loin de la société.
En ce moment, l'ambassadeur turc parut s'arrêter tout court. Il étendit son bras droit en avant et cria d'une voix qui retentit dans tout le jardin « Apporte !» Willibald partit d'un bruyant éclat de rire. «
Vraiment, dit-il ensuite, ce n'est rien moins que la merveilleuse histoire du chien de mer qu'Exter raconte à Julie, au moins pour la millième fois. »
Ernest voulut absolument connaître cette histoire miraculeuse.
« Apprends donc, dit Willibald, que le palais du ci-devant ambassadeur était situé sur le rivage du Bosphore et qu'on descendait jusqu'à la mer par un superbe escalier en marbre de Carrare. Un jour, Exter était sur la galerie, plongé dans une profonde méditation. Tout à coup, un cri perçant et prolongé le fait tressaillir. Il regarde au-dessous de lui. Un chien de mer monstrueux vient d'arracher un jeune enfant des bras de sa mère, une pauvre femme turque assise sur les marges de marbre, et il replonge avec sa proie dans les flots. Exter descend précipitamment, la femme tombe à ses pieds en jetant des clameurs de désespoir. Exter se détermine sur le champ, il avance sur la dernière marche baignée par la vague, il étend le bras et crie d'une voix sonore « Apporte !» Soudain, le chien de mer se montre à la surface de l'eau, tenant dans sa large gueule l'enfant, qu'il dépose sain et sauf et avec soumission aux pieds du magicien. Et puis, se dérobant à tout remerciement, il s'enfonce de nouveau sous les eaux. « Oh ! Ceci est un peu fort !» s'écria Ernest. « Ceci est un peu fort !»
Vois-tu bien, poursuivit Willibald, le baron tirait à présent une petite bague de son doigt et la montrait à Julie. Toute belle action a sa récompense. Exter, non content d'avoir sauvé l'enfant de la femme turque, la gratifia encore en apprenant que son mari, pauvre portefaix, parvenait à peine à gagner leur pain de chaque jour, de quelques joyaux et de quelques pièces d'or. À la vérité, ce n'était qu'une bagatelle, tout au plus la valeur de 20 à 30 000 thalers. Là-dessus, la femme tira de son doigt un petit saphir et força le baron à l'accepter, assurant que c'était un bijou de famille auquel elle tenait beaucoup et dont l'action d'Exter pouvait seule lui commander l'abandon. Exter prit l'anneau, qui lui semblait d'une mince valeur, et il ne fut pas médiocrement étonné lorsqu'il reconnut plus tard, à l'aide de caractères arabes presque imperceptibles gravés alentour, qu'il portait au doigt le sceau du grand Ali, qui lui sert maintenant quelquefois à tirer à lui les colombes sacrées de Mahomet, avec lesquelles il s'entretient. Et voilà des histoires tout à fait merveilleuses, s'écria Ernest en riant. Mais voyons un peu ce qui se passe là-bas dans ce cercle, au milieu duquel je vois se trébousser en tous sens et en piaillant une petite créature qui sautille comme un atome cartésien. Les deux amis arrivèrent près d'une pelouse, tout autour de laquelle étaient assis de vieux et de jeunes messieurs, des dames âgées et des demoiselles. Et au milieu du cercle, une petite femme en costume bariolé, haute de 4 pieds tout au plus, et avec une petite tête en boule d'une grosseur disproportionnée, sautait et gambattait en faisant claquer ses petits doigts et en chantant d'une voix grêle et criarde « Amenez vos troupeaux, bergères !»« Croirais-tu bien, dit Willibald, que cette petite nabote rabougrie qui s'exténue à faire ainsi le joli cœur est la sœur aînée de Julie. Tu vois qu'elle appartient malheureusement à ces femmes disgraciées, qu'une nature marâtre semble avoir pris plaisir à mystifier avec la plus cruelle ironie. Condamnées en effet, en dépit de tous leurs efforts, à une éternelle enfance, coquetant encore sous les rides avec cette affectation ridicule de naïveté enfantine attachée à leur figure et à toute leur personne, comment ne deviendrait-elle pas lourdement à charge aux autres et à elle-même? Et comment ne se verrait-elle pas en but presque toujours à une juste dérision? La petite dame, avec ses entrechats et son radotage français, importuna bientôt à l'excès les deux amis. Ils s'esquivèrent donc comme ils étaient venus et se rapprochèrent de l'ambassadeur turc. Celui-ci les conduisit dans le salon où l'on faisait les préparatifs du concert qu'on devait exécuter dans la soirée, et le soleil était déjà prêt de se coucher. Le piano d'Oesterlein fut ouvert et l'on mit en place les pupitres destinés à chaque musicien. La société se rassembla peu à peu. On servit des rafraîchissements et du thé dans de la vieille porcelaine de Saxe. Puis Reutlinger saisit un violon et exécuta avec une rare habileté une sonate de Corelli que le général Rixendorf accompagna sur le piano et le conseiller Archer sur le théorbe avec un talent digne de sa réputation. Ensuite, la conseillère intime Foerd chanta une grande scène italienne d'Anfossi avec une expression touchante et une supériorité de méthode qui triompha de sa voix chevrotante et inégale. Dans le regard inspiré de Reutlingel éclatait la joie et l'enthousiasme d'une jeunesse, hélas, bien loin de lui. L'adagio était fini. Rixendorf donnait le signal de l'allegro, lorsque la porte du salon s'ouvrit tout à coup brusquement, et un jeune homme bien vêtu et de jolie tournure s'y précipita, tout troublé, hors d'haleine, et se jeta aux pieds de Rixendorf en s'écriant d'une voix entrecoupée « Oh, monsieur le général, vous m'avez sauvé, vous seul, tout va bien, tout va bien !» « Oh, mon Dieu, comment donc pourrais-je vous remercier ?» Le général paraissait embarrassé. Il releva doucement le jeune homme et il le conduisit dans le jardin en cherchant à calmer ses transports. Cette scène avait causé une surprise générale. Chacun avait reconnu dans le jeune homme le secrétaire du conseiller intime Foerd, sur qui tous les regards s'étaient reportés avec curiosité. Mais celui-ci prenait prise sur prise et s'entretenait en français avec sa femme. Cependant, l'ambassadeur turc, s'étant enfin adressé directement à lui, il déclara nettement qu'il ne pouvait réellement pas s'expliquer quel génie diabolique avait si subitement lancé son jeune Max au milieu de l'honorable compagnie, ni le motif de ses remerciements exaltés. Mais, ajouta-t-il, j'aurai bientôt l'honneur. À ces mots, il se glissa hors du salon, et Willibald s'empressa de le suivre. Le trio féminin de la famille Orford, c'est-à-dire les trois sœurs Nanette, Clémentine et Julie, était loin de montrer la même contenance. Nanette agitait son éventail, parlait de l'étourderie du jeune homme, et reprit le refrain de sa chanson. « Amenez vos troupeaux, bergère !» Mais personne n'eut l'air d'y faire attention. Quant à Julie, elle s'était retirée dans un coin du salon, le dos tourné à la société, dans le but évident de cacher non seulement sa vive rougeur, mais même quelques larmes qu'on avait pu surprendre dans ses yeux.